Décryptage. Guillaume Ouattara.
21h10 à Paris, 19h10 en temps universel. Hier à Puget-sur-Argence, dans le Var, 2000 personnes ont marché en silence. Elle rendait hommage à Hichem Mirawi, 45 ans, tué devant son domicile par son voisin. Un homme fiché, connu pour ses idées racistes et conspirationnistes. Le parquet national antiterroriste a pris le dossier. C'est la première fois en France qu'un crime à caractère raciste est explicitement qualifié d'attentat terroriste. Une bascule, un mot qu'on réservait jusqu'ici à d'autres violences. Demain à Paris, 16 militants d'ultra-droite seront jugés. Ils auraient monté des cellules clandestines avec armes, entraînement et cibles désignées, des musulmans, des élus, des journalistes. En France, depuis 2017, près de 20 projets d'attentats liés à l'ultra-droite ont été déjoués. Et depuis quelques mois, les passages à l'acte se rapprochent, les discours se durcissent. Les frontières entre paroles haineuses et violences réelles se brouillent dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, dans certaines marches. Alors une question ce soir, la violence raciste est-elle décomplexée? L'extrême droite violente est-elle sortie de la clandestinité? Et la République est-elle prête à la regarder en face? Décryptage avec nos invités. Paul Conge, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste police-justice à BFM TV, auteur du livre Les tueurs d'extrême droite, enquête sur une menace française aux éditions du Rocher. Et puis à distance avec nous, Tristan Boursier, bonsoir. Vous êtes politiste spécialiste des extrêmes droites en contexte numérique et chercheur associé au CVPOF Sciences Po. Paul Conge, je vais commencer avec une question très large pour vous. Quand on parle de violence raciste en France, à l'international, de quoi parle-t-on exactement?
À tous ces niveaux-là, c'est compliqué de répondre d'un seul jet. En tout cas, en France, quand on parle de crimes racistes, ça recouvre les actes anti-musulmans, les actes anti-juifs, les actes anti, si vous voulez, tout ce qui concerne les discriminations. Là, dans les faits qui nous intéressent plus récemment, les passages à l'acte concernant des crimes racistes, des meurtres racistes, en l'occurrence, concernent plusieurs affaires. Il y a eu le meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard à la fin du mois d'avril, qui a été poignardé à 57 reprises par quelqu'un. Vous avez la tuerie commise par William Mallet devant un centre kurde à Paris. Il a abattu 3 personnes kurdes. De la même façon, la justice a qualifié ces faits de racistes, mais pas de terroristes. Et plus récemment, donc l'effet de Puget-sur-Argent, là, on a à la fois le mobile raciste et l'intention terroriste, même si, pour le coup, le principal mise en cause nie à la fois cette intention-là et ce mobile.
C'est la première fois, je le disais en guise d'introduction, que le parquet national antiterroriste, le PNAT, se saisit d'une enquête pour des faits liés à un meurtre raciste. Pourquoi un tel changement? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire qui ne s'est pas passé dans d'autres?
C'est une question très intéressante et ça pose exactement la question de la différence entre le crime raciste et l'attentat terroriste. Il y a une définition assez précise de ce que doit recouvrir un acte pour qu'il soit qualifié de terroriste, en l'occurrence qu'il doit constituer une entreprise individuelle ou collective qui a pour but de troubler gravement la société par l'intimidation ou la terreur. De fait, dans l'acte de Puget-sur-Argent, ce qui a vraiment fait une différence par rapport à des actes qui ont été commis auparavant, c'est le manifeste, les vidéos de revendication qu'a publié le tireur présumé avant et après les faits. Et pour le coup, ça laisse assez peu de doutes. Je vous en cite quelques extraits. Christophe Beljean, donc l'auteur présumé, la personne mise en examen pour ces faits, appelle les Français à se réveiller, à le prendre en exemple, alors que lui appelait donc à tuer des étrangers. Il veut aussi que la peur change de camp. Quelque part, il veut que son geste ait des conséquences politiques, il veut perturber la société, c'est-à-dire que son projet à lui va plus loin que du simple racisme individuel, il veut que ça ait des conséquences, il veut qu'on limite, et c'est ça qui fait que le parquet national antiterroriste s'est saisi de ce fait-là. C'est pas la première fois que le parquet national antiterroriste en vérité se saisit de faits, disons, d'actes terroristes reprochés à des militants d'extrême droite ou à des personnes, disons, plus isolées. Il s'était déjà saisi pour 19 faits. Mais en l'occurrence, des projets, à l'état de projet, des cellules constituées ou des individus plus solitaires qui avaient fomenté des passages à l'acte violent visant des musulmans, des juifs, des francs-maçons, des personnalités politiques.
Tristan Boursier, vous êtes avec nous à distance, spécialiste des extrêmes droites, chercheur. Ces violences racistes, est-ce qu'on observe une hausse ces dernières années, une hausse des projets, une hausse des réalisations de toutes ces violences ?
Oui, bonsoir, j'espère que vous m'entendez correctement. Donc effectivement, moi je m'appuie sur les chiffres du ministère de l'Intérieur qui observe une augmentation depuis quelques années des violences racistes. Mais de manière plus généralement, on observe une utilisation des projets politiques racistes, notamment liés aux différentes nuances des extrêmes droites. Je parle de visibilisation parce que je mentionne, enfin j'ai en tête surtout le contexte numérique avec la viralité qu'obtiennent, dont bénéficient certains contenus racistes et même qu'on peut qualifier de suprémacistes blancs, car comme Paul Conge l'a très bien dit, ce n'est pas seulement le racisme en tant qu'acte individuel interpersonnel, mais il y a derrière un projet politique derrière ces discours.
Paul Conge, vous le citiez à l'instant, dans votre ouvrage « Les tueurs d'extrême droite enquêtent sur une menace française », vous parlez de William Mallet, militant xénophobe de 69 ans, qui tue trois Kurdes, c'est en 2022, dans un centre culturel. Dans cette affaire, il n'y a pas de qualification d'attentat.
Non.
Pourquoi ?
C'est une décision qui a été extrêmement critiquée, hein, notamment par les avocats des parties civiles. Et moi-même, je reviens très, très longuement sur cette affaire dans mon livre. J'explore tous les pans de la vie de William Mallet, tous les espaces où il a pu se confronter à des idées d'extrême droite, où il a pu se radicaliser à petit feu.
Et en prison, notamment.
Notamment en prison. Je pense vraiment que le mystère de William Mallet, quelque part, l'énigme se noue en prison quelques mois avant sa libération, quelques mois avant qu'il commette ce que moi je qualifie d'attentat. Mais alors, justement, en fait, si vous voulez, la seule nuance que je peux voir avec le crime dont est suspecté, parce que présomption d'innocence, Christophe Bellejambe, c'est qu'il n'y a pas de message de revendication chez William Mallet. Donc William Mallet, c'est quelqu'un qui revendique, après avoir tué trois Kurdes dans la rue d'Enghien à Paris, dans le 10e arrondissement, qui revendique une haine pathologique des étrangers, qui emploie lui-même le terme d'attentat, et qui a cette phrase assez incroyable au cours de l'instruction, il dit « J'emporterai mes ennemis dans ma tombe ». Et je trouve que cette phrase résume parfaitement ses motivations, à savoir à la fois un désir de vengeance individuelle, un racisme obsessionnel, et tout de même un geste qui trouble la société, qui trouble les Kurdes, qui sont atteints dans leur chair. Mais voilà, les critères retenus par le parquet national antiterroriste ne sont pas forcément les nôtres.
Parce qu'en même temps, il dit qu'il a voulu se suicider et qu'il voulait tuer d'autres personnes avec. Donc...
Ouais, il voulait tuer plus de gens, il le dit d'ailleurs, il regrette de ne pas en avoir tué plus. Il n'en a tué que trois, il n'en a blessé que trois. Effectivement, je sais que ce dossier-là a créé d'énormes débats au sein de la magistrature, et notamment chez les magistrats antiterroristes, et j'ai pu échanger avec plusieurs d'entre eux, et ils me disent, voilà, parfois, en fait, on est sur le fil du rasoir. On est sur le fil du rasoir. Ça peut basculer côté terroriste, ça peut ne pas basculer côté terroriste. Si vous vous souvenez de l'acte qui a été commis à la mosquée de Bayonne en 2019, si mes souvenirs sont exacts, un ancien militant du Front National, Claude Cinquet, tire à plusieurs reprises sur une mosquée. Eh bien, pendant plusieurs jours, il a été question de qualifier ces faits de terroristes. Ils ne l'ont pas été finalement, notamment parce que voilà, le tireur semblait avoir des problèmes psychiatriques très, 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 très importants. Mais vous voyez, c'est vraiment du cas par cas. Et c'est très dur de savoir à l'avance ce que le parquet va décider.
Tristan Boursier, pour qu'il y ait décomplexion de la violence raciste, il faut qu'il y ait propagation de ces thèses. Et vous avez étudié l'impact de la fachosphère sur Internet. Un internaute peut commencer par regarder des vidéos antiféministes ou patriotes, d'abord humoristiques, et puis il se retrouve exposé à du contenu suprémaciste. Il y a un engrenage qui peut expliquer la violence raciste dans notre société.
Oui, effectivement, en fait, on observe que certains contenus servent de pipeline, de couloir vers des contenus radicaux et violents d'extrême droite. Il y a beaucoup d'études qui nous informent, par exemple, sur le rôle de porte d'entrée qu'ont les contenus antiféministes et masculinistes, c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs qui vont commencer par ces contenus et vont finir par accepter l'idée d'inégalité en tant que critère légitime pour organiser la vie politique, la vie en société. Et de vidéo en vidéo, de contenu en contenu, ils vont tomber sur des contenus plus explicitement racistes, qui vont plus directement être liés aux extrêmes droites, et après avoir accepté une inégalité basée sur le genre, vont finir par accepter une inégalité sur les supposées races. Donc on observe des liens et un cheminement de radicalisation entre différents contenus qui, pour autant, n'ont pas forcément d'organisation militante commune.
Et il y a aussi ce phénomène qu'on appelle le phénomène des bulles filtrantes, l'insularité cognitive, c'est que plus on va regarder des vidéos qui vont dans ce sens-là, du masculinisme, de l'antiféminisme et du racisme, plus les algorithmes de YouTube, de TikTok vont nous en montrer. Ces géants du web, ils ont une part de responsabilité dans ce qui se passe ?
Ah oui, complètement, et d'autant plus que maintenant, il semble qu'ils fassent un revirement, notamment sur leur politique de modération. Faut savoir que la modération, c'est quelque chose qui a toujours été un sujet compliqué pour les GAFAM, notamment parce que ça leur coûte énormément d'argent. Et récemment, avec la seconde élection de Donald Trump aux États-Unis, on a eu par exemple le propriétaire de Meta, Mark Zuckerberg, qui semble avoir fait un revirement pour moins de modération. On a évidemment le rachat de Twitter, maintenant X, avec Elon Musk, qui a complètement baissé tous les filtres de modération. Et suite à ça, on a observé une augmentation de la visibilisation des contenus, notamment racistes. J'aimerais insister sur le fait que c'est des contenus qui sont viralisés justement par le jeu des algorithmes et qui renforcent aussi, comme vous semblez l'avoir cité, le phénomène de chambre d'écho.
Paul Conge, il y a évidemment les réseaux sociaux, ce qui s'y partage, ce qui s'y dit, mais quelle place pour le politique, pour les discours, pour une forme de libération du discours raciste, quand on parle de grand remplacement, d'ensauvagement dans les médias grand public, est-ce que ça incite indirectement certains à commettre l'irréparable ?
Je répondrai en disant que le terrorisme d'extrême droite, ça ne jaillit pas de nulle part. Mmh. On voit ça sortir depuis fin 2016, début 2017. On voit se constituer des cellules clandestines, je le disais. On voit s'armer des tueurs isolés. Ils disent souvent que c'est en réaction aux attentats de 2015 qu'ils se sont constitués. C'est ce qu'on a vu dans le groupe AFO, que vous avez cité dans votre introduction, qui sera jugé à partir de demain pour des projets anti-musulmans. Se nourrissant toujours d'une confusion finalement entre musulmans et djihadistes. Mais tout ça est un prétexte à mon sens, et le terrorisme et les homicides d'extrême droite, que je dépeins dans mon livre, se nourrissent des discours qui désignent les musulmans et les immigrés comme des ennemis de l'intérieur à combattre ou à abattre. Quand vous regardez l'acte de William Mallet dont on parlait à l'instant, c'est un tueur lepéniste, un cheminot à la retraite qui a toujours voté pour le Front National depuis son plus jeune âge. Il est imbibé de ces discours racistes, de cette parole qu'on entend sur certains plateaux de télévision, dans la bouche de certains responsables politiques. Ces déclarations, sont celles du Front National de Jean-Marie Le Pen. William Mallet dit « il faut la France aux Français ». Il a été influencé par ces discours-là, et certainement que les discours politiques portent une responsabilité dans la manière qu'il a eu peut-être de se légitimer, de légitimer son acte, ou de passer à l'acte, en effet.
Et puis ses compagnons de cellule racontent qu'il passe le plus clair de son temps à regarder certaines chaînes, CNews pour la citer.
Il le dit à plusieurs reprises, effectivement, pendant l'instruction. Ouais.
Où il y a pu y avoir un certain nombre de discours, parfois condamnés. D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous revenez sur tout ce qui s'est passé en 2022. Pourquoi cette année-là est importante ?
Cette année-là m'a semblé importante parce que c'est une année d'élection présidentielle. Et c'est vrai que j'ai été très surpris, courant 2022, dans le sillage de la campagne, de voir tout à coup une série de meurtres, d'homicides par arme à feu, surtout par arme à feu, en l'espace de 8 mois, à Paris, d'ailleurs dans un rayon de 3 km avec un mode opératoire qui, moi, me faisait penser au terrorisme. Le livre « Les tueurs d'extrême droite » revient sur le parcours de 4 tireurs, parce qu'il y a 4 tireurs, 3 scènes de crime, tous idéologiquement d'extrême droite, certains connus de la justice, 2 fichés S, 1 recherché par la police, 1 qui sortait tout juste de prison. Que des morts par arme à feu, c'est très étonnant parce qu'en fait, l'extrême droite n'avait pas tué par arme à feu depuis le début des années 2000 et subitement, en 2022, une série d'homicides, des actes de violence de haute intensité. Ça m'a fait me dire qu'il y avait une anomalie statistique à ce moment-là. 31 homicides à Paris en 2022, 5 imputables à l'extrême droite. Ça faisait un homicide sur 6 imputable à l'extrême droite. Cette recrudescence de la violence politique d'extrême droite, elle ne jaillit pas de nulle part. Et effectivement, le contexte sous haute tension de la présidentielle, la banalisation d'une parole haineuse n'a pu que favoriser pour certains l'idée qu'un passage à l'acte était nécessaire.
Tristan Boursier, dans vos recherches, vous pointez du doigt un grand paradoxe. C'est la haine, c'est la violence qu'on peut lire en ligne, mais la manière et la culture qui l'entoure, c'est l'humour. C'est le phénomène du mème, c'est-à-dire l'image un peu drôle qu'on partage, qui devient virale. Il y a un youtubeur, par exemple, Papacito, qui fait semblant d'abattre un gaucho, c'est comme ça qu'il en parle, dans une vidéo, c'est de l'humour noir, dit-il. Est-ce que c'est ça qui peut désinhiber aussi la violence réelle en la tournant en dérision ?
Oui, tout à fait. Ça fait partie d'une des tactiques des influenceurs d'extrême droite en ligne. L'humour, c'est un point clé dans la mesure où il leur permet de tenir des propos extrêmement violents sans en assumer la responsabilité, puisque quand ils sont confrontés sur les enjeux politiques soulevés par ce qu'ils présentent comme étant des blagues, ils se défaussent en disant qu'ils jouent un personnage, qu'ils ne sont pas sérieux. Et d'ailleurs, c'est exactement la défense qu'a eue Papacito lors de cette fameuse vidéo de 2021.
Guillaume Ouattara.
21h25 à Paris, 19h25 en temps universel. Cette question dans Décryptage, la violence raciste s'est-elle décomplexée? On en parle avec Paul Comte, journaliste police-justice à BFM TV, auteur des tueurs d'extrême droite, enquête sur une menace française, édition du Rocher. Et puis nous sommes également avec Tristan Boursier, politiste, spécialiste des extrêmes droites et chercheur associé au CVPOF Sciences Po. Paul Comte, il y a un éléphant dans la pièce. On parle de la décomplexion de la violence raciste, de la décomplexion de la parole raciste en ligne, sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on peut imputer les actes dont on parle aujourd'hui à des mouvements politiques précis? William Mallet avait par exemple dit qu'il avait voté pour Éric Zemmour, lui qui avait toujours voté pour le Front National. En clair, est-ce que les partis politiques peuvent être tenus coupables de ce qui se passe ou pas?
Non, je me garderai de faire ce genre de raccourci, je le pense pas. Je pense que dans tout passage à l'acte, dans tout passage à l'acte criminel, quand on s'interroge sur la jeunesse de l'acte, eh bien oui, il y a certainement beaucoup d'influences différentes qui font qu'à un moment donné, quelqu'un décide de tuer quelqu'un. Je pense qu'il y a une part, bien sûr, de rationnel, une part d'endoctrinement qui peut, dans certains cas, notamment dans ceux que je décris dans le livre, effectivement, influencer. Mais dans les mécaniques de passage à l'acte, moi je couvre des affaires judiciaires depuis quasiment 10 ans. Il y a jamais deux fois le même mécanisme de passage à l'acte, si vous voulez, chez un criminel. Il y a toujours une part un peu d'irrationnel, et c'est vrai que chez les profils que moi je décris, chez William Mallet, on a aussi une psychologie très particulière, des fantasmes extrêmement morbides, des choses comme ça. Et chez un autre homme dont je parle aussi, qui s'appelle Martial Lanoir, qui lui est un militant conspirationniste d'extrême droite, qui a abattu à Pigalle un jeune homme d'origine marocaine en lui tirant une balle dans la tête. Eh bien lui, ça faisait des années qu'il déversait une haine à la fois antisémite et raciste sur Internet. On sent bien qu'il a eu une obsession qui l'a dévoré de l'intérieur quasiment, mais il en est responsable également puisqu'il a cédé, si vous voulez. Mais voilà, dans tous les passages là que je raconte dans le livre, il y en a 4 différents, et très sincèrement, c'est très très difficile de voir systématiquement des points communs. Et il y en a, parce que leurs victimes, toutes, n'ont pas la peau blanche, ils ont tous des armes à feu. Pourquoi est-ce qu'ils ont des armes à feu? Parce que à l'extrême droite, il y a une culture de l'arme à feu. C'est préconisé par certains influenceurs de la mouvance. Vous avez parlé de Papacito. Papacito donne des conseils pour s'armer en appelant par exemple ses fidèles à passer leur permis de chasse ou alors à s'inscrire dans des clubs de tir. Donc oui, la culture de la violence, la culture viriliste des milieux d'extrême droite peut jouer un rôle, mais gardons-nous tout de même vraiment d'assimiler le geste à un simple parti ou un mouvement politique. Les passages à l'acte criminels sont beaucoup plus compliqués que ça.
Tristan Boursier, on parle beaucoup de déradicaliser les djihadistes, mais quasiment jamais les militants d'ultra-droite. Est-ce que vous pensez qu'il y a un travail à faire pour raccrocher les jeunes qui seraient tombés dans la fachosphère?
Alors, c'est pas le centre de mes recherches, mais par contre, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, et il y a aussi des institutions publiques qui s'en préoccupent, notamment au Royaume-Uni, qui en ce moment fait beaucoup de travail sur la radicalisation, cette fois vers le masculinisme. Donc, il y a des solutions possibles, il y a des choses à faire. Je pourrais pas en dire davantage, par contre, sur ce sujet.
Donc, des initiatives à mettre en place. Un dernier point, Paul Comte, 2027 arrive. Est-ce que ça ouvre de nouvelles perspectives? Est-ce que ça fait craindre aux services de renseignement d'autres passages à l'acte?
En tout cas, l'état de la menace terroriste d'ultra-droite se maintient à un niveau sérieux. Des attentats sont toujours déjoués. Et le livre que j'écris se termine sur ce pronostic, c'est que 2027 ne sera pas plus apaisé que 2022. Donc malheureusement, tout est possible.
Merci beaucoup Paul Comte, journaliste police-justice à BFM TV, auteur des tueurs d'extrême droite, enquête sur une menace française aux éditions du Rocher. Merci Tristan Boursier à distance avec nous, spécialiste des extrêmes droites en contexte numérique et chercheur associé au CVPOF Sciences Po. Vous restez avec nous bien sûr sur RFI. Dans moins d'une minute, c'est le retour de l'information africaine avec Sylvie Berruet.